Il penchait pour du bois peint. Des années plus tard, quand frère Pépé décrivit dans un courrier à Juan Diego la restauration intérieure de l'église de la Compagnie de Jésus, il évoqua la nouvelle pierre calcaire. Tu le savais, toi, que la pierre calcaire produit de la chaux quand elle brûle? Juan Diego ne le savait pas, et se demandait par ailleurs si la statue de la Vierge Monstre, désormais en calcaire, avait fait partie de la restauration. Cela impliquait-il que l'ancienne était une autre pierre? Et tandis que Vargas gravissait les échelons pour voir de plus près le visage impénétrable, les yeux de la Vierge très indigène n'ayant pas jusque-là donné le moindre signe de vie, Lupe lisait dans les pensées de Juan Diego. Oui, moi aussi, je crois bien que c'est du bois, pas de la pierre. D'un autre côté, si Rivera a pris un couteau à bois pour travailler la pierre, et il ne faut pas s'étonner qu'il se soit coupé, je ne l'ai jamais vu se blesser comme ça, et toi? Moi non plus. Juan Diego pensait que les deux nez étaient en bois, mais que Vargas allait leur servir un diagnostic scientifique sans se compromettre sur la composition du nouvel appendice, miraculeux ou non. Les deux prêtres observaient Vargas avec attention, alors même que celui-ci se trouvait tout en haut de l'échelle. Il était difficile de voir ce qu'il faisait. « Qu'est-ce que je vois, un couteau? Vous n'êtes pas en train de lui taillader le visage, j'espère !» s'écria le père Alfonso. « C'est un couteau suisse !» intervint Edouard Bonnechaud. « J'en avais un, mais... » Le père Octavio l'interrompit. « N'allez pas lui faire une saignée, Vargas !» Lupe et Juan Diego ne s'intéressaient aucunement au couteau suisse. Ils fixaient les yeux impénétrables de la Vierge Marie. « Je dois dire que c'est du travail de pro !» lança Vargas du haut de l'échelle branlante. « En matière de chirurgie, il y a loin de l'amateurisme au sublime. Vous êtes en train de nous dire qu'on a ici quelque chose qui relève du sublime, mais que c'est tout de même de la chirurgie ?» s'enquit le père Alfonso. « On observe une légère marque sur le bord d'une narine, comme une tache de naissance. Vous ne pouvez pas la voir d'en bas. » « La tache de naissance supposée pourrait très bien être une tache de sang, » pensa Juan Diego. « En effet, » dit Lupe, « ça pourrait être du sang. El Jefe a dû saigner beaucoup. » « La Vierge Marie a une tache de naissance ?» s'exclama le père Octavio d'un ton indigné. « Ce n'est pas une imperfection, » dit Vargas, « et ça m'intrigue prodigieusement. »« Et les matériaux, Vargas, le visage, le nouveau-né ?» rappela le père Octavio au praticien. « Oh, cette dame est beaucoup plus proche de la terre que des cieux !» Vargas s'amusait aux dépens des deux prêtres, lesquels s'en rendaient compte. « Elle fleure plus le basurero qu'une suave odeur de sainteté. » « Tenez-vous-en à des considérations scientifiques, Vargas !» protesta le père Alfonso. « Les amateurs de poésie pourront toujours lire du Shakespeare, » renchérit le père Octavio en lançant un regard noir à l'homme perroquet, qui se sentit dispensé de citer d'autres vers de Roméo et Juliette. Rivera en avait terminé avec ses « Je vous salue Marie ». Il s'était relevé. Que le nouveau-né soit son œuvre ou pas, il n'en dirait mot. Son pansement était propre et sec. Il allait prendre congé, laissant Vargas en haut de son échelle et les deux prêtres en butte à ses sarcasmes, mais Lupe tenait à ce que tout le monde soit présent pour écouter ce qu'elle avait à dire. Ce n'est que plus tard que Juan Diego comprit pourquoi. Le dernier des crétins nasolâtres avait quitté l'église. Sans doute espéraient-ils tous un miracle, mais ils en savaient assez sur le monde réel pour se rendre compte qu'ils avaient peu de chance d'entendre le mot « milagro » sortir de la bouche d'un médecin perché sur une échelle, qui plus est muni d'une paire de jumelles et d'un couteau suisse. « Un nez pour un nez, moi ça me va. Traduis tout ce que je vais dire, » dit Lupe à Juan Diego. Puis elle regarda les deux prêtres droit dans les yeux. « Quand je mourrai, n'incinérez pas mon corps. « Balancez-moi tout votre pataquès, vos formules magiques à la noix. Vous pouvez brûler mes vêtements, mes affaires. Si un chien vient à mourir, oui, vous pouvez le brûler avec, mais pas moi. Donnez-moi tout ce qu'elle voudrait me donner, » dit-elle en montrant du doigt la Vierge Monstre au nez de boxeur. « Et puis, mettez une pincée, seulement une pincée, de cendre à ses pieds, sans la lancer. Comme l'homme perroquet a dit la première fois, peut-être pas toutes les cendres, et uniquement à ses pieds. À mesure qu'il traduisait mot pour mot, Juan Diego voyait les deux prêtres captivés par les paroles de Lupe. Faites attention au petit Jésus, continua Lupe. Ne lui mettez pas de cendre dans les yeux. Elle avait même une pensée pour la petite statue du Christ agonisant, recroquevillée sur sa croix, saignant au pied massif de la Vierge Marie. Juan Diego n'avait pas besoin d'être extra lucide pour lire dans les pensées de frère Pépé. Lupe était-elle en pleine crise mystique? C'est le type de réflexion qui peut nous assaillir dans un édifice voué à la spiritualité comme l'église de la Compagnie de Jésus. Dans un tel lieu, en présence de la statue gigantesque de la Vierge Marie, il est légitime d'avoir des pensées mystiques ou au contraire carrément païennes. Une harangue comme celle de Lupe nous incite à songer à tout ce qui nous sépare en matière de foi et de croyance. Dans la bouche de Lupe, nous n'entendons que ce que nous imaginons de ses convictions ou de ses sentiments religieux, et nous ne pouvons nous empêcher de les juger à l'aune des nôtres. Vargas, l'athée, le médecin qui avait apporté ses jumelles et son couteau suisse pour décrire l'anatomie d'un miracle ou pour ausculter un nez qui n'avait rien de miraculeux, aurait considéré que, pour une gamine de 13 ans, Lupe avait atteint un degré d'élévation spirituelle carrément impressionnant. Rivera, quant à lui, savait qu'elle était à part. Pour tout dire, ce très superstitieux adorateur de Marie avait peur d'elle. Mais comment savoir ce qu'il pensait en réalité? El Jefe était sans doute soulagé de constater que les convictions religieuses de Lupe n'étaient plus aussi subversives et qu'elle avait changé de registre. Quant aux deux vieux prêtres, ils se félicitaient, ainsi que le personnel des enfants perdus, d'avoir ainsi instillé la foi chez une enfant aussi rebelle qu'incompréhensible. Le bon frère Pépé avait dû prier pour que renaisse un espoir de salut pour elle. Peut-être n'était-elle pas aussi perdue qu'il l'avait cru au début. Pour peu qu'elle soit traduite, sa pensée avait peut-être un sens, du moins sur le plan de la foi chrétienne. Il la considérait comme convertie. « Pas de crémation !» Seigneur Eduardo n'en demandait pas plus. C'était un pas dans la bonne direction. Et c'est ce qu'ils avaient dû tous penser. D'ailleurs, même Juan Diego, qui connaissait sa sœur mieux que personne, ne perçut pas ce qu'il aurait dû pourtant entendre. Pourquoi une enfant de 13 ans parlait-elle de mourir? Pourquoi énonçait-elle ici ses dernières volontés? Lupe savait lire dans les pensées des autres, même des lions, même des lionnes. Pourquoi aucune des personnes présentes n'avait-elle été capable de lire dans les siennes? Chapitre 28. La convergence. Cette fois, Juan Diego était tellement immergé dans le passé, ou tellement éloigné de l'instant présent, que ni le bruit de la sortie du train d'atterrissage, ni le choc au moment où l'avion se posa sur la piste, ne le ramenèrent d'emblée à la conversation de Dorothy. Marcos est originaire d'ici, disait-elle.
Qui ça?
Marcos. Tu te souviens de Mrs. Marcos, non? Imelda, la femme aux millions de chaussures. Elle est toujours membre de la Chambre des représentants ici, dans cette province.
Oh, elle doit avoir plus de 80 ans, aujourd'hui.
Ouais, elle est carrément vieille, en tout cas. Ils avaient une heure de route devant eux. Dorothy l'avait prévenu qu'il devrait encore rouler dans la nuit et entrevoir ça et là quelques touches d'exotisme. Des maisons aux toits de chaume, des églises de style espagnol, des chiens, ou seulement l'éclat de leurs yeux dans les phares. Et au diapason de l'obscurité qui enveloppait la voiture, l'hôtelier avait réservé pour eux le chauffeur et la limousine, Dorothy décrivit la souffrance atroce des prisonniers de guerre américains au Nord-Vietnam. Elle semblait connaître parfaitement les détails des séances de torture perpétrées au Hilton de Hanoï, comme on appelait la prison de Joa Lo, de la capitale nord-vietnamienne. Les supplices les plus atroces étaient infligés aux pilotes d'avions de combat abattus et capturés. Encore de la politique surannée, songeait Juan Diego dans le noir. Ce n'est pas qu'il s'en désintéressait, mais en tant qu'écrivain, il se méfiait des gens qui présumaient de ses opinions. Et cela lui arrivait tout le temps. Pour quelle autre raison Dorothy l'avait-elle amenée à cet endroit?